Après le désastre, qu'est-ce qu'on écrit? Et qu'est-ce qu'on n'écrira plus surtout? Qu'est-ce qu'on devra écrire peut-être malgré soi? Ce sont des questions d'aujourd'hui, ça. Des questions qu'on se pose à chaque attaque, notamment après chaque attentat. On en a encore fait l'expérience cette année plus d'une fois, et c'est peu dire qu'on les voit venir, les attentats. Cette question, l'écrivain américain Don DeLillo, l'auteur de Bruit de fond, Outre-Monde ou Cosmopolis, se l'est posé très tôt, bien avant tout ça. C'est peut-être pour ça qu'on en a fait un visionnaire, même s'il a raison, il aime pas qu'on dise ça. Une seule question. Quel effet l'écrivain peut-il avoir sur notre culture quand les terroristes ont pris en otage la narration du monde? Question presque rhétorique, mais vous conviendrez que c'est une bonne question. Dans un monde qui semble dicté par la peur, la paranoïa, la destruction collective, la même histoire, le même roman international qui se déroule sous nos yeux, dont on est malgré nous personnage, qu'est-ce qu'un romancier peut bien nous raconter? Ce que théorise avant tout le monde Don DeLillo, en une simple question, c'est une nouvelle ère du soupçon, méfiance mutuelle entre le lecteur et le romancier. Dans le chaos du contemporain, qu'est-ce qu'il peut bien pouvoir encore nous raconter?
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Quel monde nous raconte mon invité d'aujourd'hui? Dans son dernier roman Cortex, elle nous guide dans une cité des anges en pleine apocalypse après une explosion pendant la cérémonie des Oscars, et elle interroge par là quelque chose de la narration du monde et du langage dont il faut se saisir pour le dire. À mon sens, c'est l'un des plus grands textes de cette année 2017. On ne pouvait pas finir l'année sans en parler. Bonjour Anne Scott.
Oh, merci Augustin. Bonjour Augustin.
Merci d'être là. Tout d'abord, qu'est-ce qu'elle nous dit pour vous, cette citation de l'écrivain américain Don DeLillo, dont vous êtes une lectrice assidue? Le terrorisme a pris en otage la narration du monde.
Je pense qu'il veut dire que ça devient anecdotique de parler d'autre chose. Et que si on a déjà eu la chance de pouvoir écrire sur deux ou trois amours, histoires d'amour, deux ou trois ruptures avant, on peut maintenant passer à autre chose et enfin s'attaquer à des vrais problèmes de société, quoi.
Et on ne peut pas faire autre chose que d'écrire là-dessus?
Bah, si, on peut écrire un énième huis clos de deux personnes en train de se séparer dans un hôtel en Bretagne hors saison, mais bon, il y a 40 textes comme ça, et ça dépend si on a envie d'écrire des choses de maintenant ou pas, quoi.
Qu'est-ce qu'il a vu, l'écrivain Don DeLillo, que les autres ne voulaient ou n'avaient pas encore vu?
Je crois qu'il a été marqué par l'assassinat de JFK, surtout. Je crois que c'est parti de là. Il a fait un livre sur une fiction sur Lee Harvey Oswald. Je crois qu'il est parti de là, et je crois que la phrase que vous venez de citer, elle vient d'un documentaire où il expliquait pourquoi il a commencé à s'intéresser à ce genre de choses, ouais.
La question qu'il se pose, Don DeLillo, et que je trouve personnellement passionnante, c'est: dans un monde où la narration a été prise en otage par le terrorisme, à quoi ils servent, les écrivains? Pourtant qu'ils doivent servir à quelque chose.
Je pense que l'écrivain, il écrit d'instinct ou parce qu'il a quelque chose en particulier qu'il a envie de faire. Après, ce que ça apporte au lecteur, j'ai pas la moindre idée.
Possible, tout simplement, qu'il ait pour mission d'alerter, d'une façon ou d'une autre. Alerter qui veut dire, à l'origine, mettre en garde.
Mettre en lumière, peindre un tableau, oui, peindre un décor pour montrer des choses, oui. Après, c'est une question de lecteur, ça, c'est pas une question d'auteur.
Alors c'est à la lectrice que je m'adresse.
Ah, mais je vais être obligée de dire un truc pas sympa là. Moi, j'arrive pas à lire pour le plaisir. Je lis pour apprendre à écrire mieux. Donc, je suis pas une bonne lectrice. Je relis sans arrêt les mêmes choses. Je peux pas faire une réponse intéressante à ça.
Dans Cortex, votre dernier roman, vous imaginez un attentat le jour de la cérémonie des Oscars, Anne Scott. S'attaquer au cinéma, à cet art-là, symboliquement, pour vous, ça veut dire quoi?
Ça veut dire rendre hommage à un cinéma qui a disparu déjà.
De quel cinéma est-ce qu'on parle là précisément? De quel film?
On parle du cinéma des années, 40 à 80 incluses, qui se termine dans les années 90 avec les grosses franchises, les films qui ont plusieurs suites, les trilogies, le début des séries, toutes ces choses qui ont plus rien à voir, quoi.
Faut-il le détruire pour lui rendre hommage?
L'idée dans le livre, c'était que je détruise tout ce que j'aimais le plus. Donc c'est plus un hommage pour moi qu'une destruction. Après, je sais juste que je voulais voir si j'allais pleurer à l'idée que ces films, tous ces trucs avec lesquels j'ai grandi disparaissent. Et l'état dans lequel ça me mettait m'a fait me dire que j'avais raison d'essayer de faire ça, parce que ça permet de se rendre compte à quoi on tient.
Et puis ce que vous faites, c'est aussi s'attaquer peut-être quand même à l'une des plus grandes machines à produire des histoires, à produire du rêve aussi. Est-ce qu'on vit dans un monde où rêver est encore permis, Anne Scott?
L'idée du roman, c'était ça. Qu'est-ce qui se passe si on nous retire nos rêves? Et quand je demandais autour de moi aux gens quel était le plus grand vecteur de rêve pour eux, ils disaient tous le cinéma, ils ne disaient pas l'opéra ou la littérature, des choses comme ça. Ils ont tous commencé par se servir du cinéma comme modèle. Les garçons portaient des t-shirts comme James Dean, les filles allumaient leurs cigarettes comme Lorraine Bacall, ou traversaient un aéroport comme Ava Gardner, enfin je ne sais pas. Mais c'est... Ouais, on s'est construit avec ça. Ce n'est même pas la vie des stars, c'est la vie de leurs personnages.
Vous rêvez de quoi, vous, aujourd'hui ?
Que la nouvelle histoire de mon nouveau roman me plaise autant que le précédent. Juste, je ne demande pas grand-chose.
C'est déjà pas mal.
Ouais.
En tout cas, ce qui est fascinant, Anne Scott, c'est que dans Cortex, vous saisissez quelque chose quand même, de l'air du temps. En quoi le monde dans lequel on vit aujourd'hui, et dans lequel Internet a tout changé, est-il radicalement différent de celui de l'époque où vous avez commencé à écrire, à votre avis ?
Je crois que je ne regarde pas ce qui a changé, parce que ça me déplaît tellement que je m'entoure de ce qui peut-être n'existe plus, mais qui existe encore pour moi. Quoi.
Qu'est-ce qui vous déplaît précisément ?
Je ne sais pas, 94% des choses.
Internet ?
Internet en tant que tuyau bourré d'informations, non. Internet en tant que Google, Monopole, Amazon, réseaux sociaux, oui.
Dans le livre, l'un de vos personnages dit que sur la toile, on n'est pas au contact de la réalité, mais du spectacle de la réalité. Qu'est-ce qui caractérise pour vous ce spectacle ? De quel spectacle est-ce qu'il s'agit ?
Tout est de la mise en scène. Dès qu'il y a un drame collectif, vous avez vu la musique au JT, il y a une espèce de... Même quand ce n'est pas une vraie musique, c'est-à-dire une vraie orchestration, il y a un bruissement derrière qui est mis en scène pour rendre le truc tragique. Enfin, c'est effrayant, tout est du spectacle.
Et quelle spectatrice est-ce que vous êtes face à ce spectacle, justement ? Méfiante, blasée, parano, premier degré, planquée, pour reprendre des angoisses qu'il y a
dans
Cortex ?
Non, je crois que j'adore ça, parce que ça me fait me sentir vivante, bien au chaud, protégée, empathique avec la terre entière, tout ce qu'il faut pour se déculpabiliser d'exister... de manière moins misérable que le voisin, quoi.
Ce qui m'intéresse, moi, dans cette notion de spectacle, c'est aussi que votre livre a quelque chose de spectaculaire. Dans les images qu'il déploie, comme s'il fallait frapper fort, très fort, pour se faire voir, pour se faire entendre aussi.
C'est pas tellement une question de spectacle. C'est que je me suis demandé ce qui me touchait le plus et ce qui me tenait le plus à cœur. Et dans le cinéma, et je me suis rendu compte que c'était les films catastrophes. Parce que ça génère une solidarité, ça fait aller vers les autres. À ce moment-là, on se sent vraiment vivant. Et c'est en général, ça découle d'un drame énorme, d'un drame collectif ou d'une catastrophe naturelle. Donc l'attentat dans le livre, il était motivé par le fait que je voulais voir quelque chose, moi, de terrible et de voir plein de gens s'entraider. C'est pas la volonté de créer un spectacle pour le lecteur.
Pour autant, ça faisait longtemps qu'on vous avait pas entendu.
Ça faisait longtemps que j'avais pas publié. Parce que je trouvais que tout ce que j'avais publié jusqu'à il y a quelques années était assez inconséquent. Inconsistant, et j'en avais marre, quoi. Même c'était inégal en plus, donc je me suis dit que je ne publierais pas tant que j'aurais pas quelque chose dont je puisse être absolument fière.
Celle qui est fière d'elle-même dans cette émission, un petit peu trop, si vous voulez mon avis, c'est la culture et son actualité franchement bruyante. Et m'as-tu vu, que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 22 décembre ? Le mauvais tour de Babelmed, la 14e édition du Babelmed Music, rendez-vous marseillais des musiques du monde qui devait se tenir en mars prochain, n'aura pas lieu. La raison, la coupe drastique de ses subventions. La région PACA, présidée par le républicain Renaud Muselier, a en effet décidé de baisser de 79% sa participation au financement du festival, laissant un trou de près de 250 000 euros. Dur.
Cat person. Margot met Robert on a Wednesday night toward the end of her fall semester.
The Cat Person, c'est le titre de la fiction la plus lue de l'année sur le site du New Yorker, figurez-vous. Une nouvelle de 7000 mots qui arrive juste après l'article de Ronan Farrow qui avait lancé l'affaire Weinstein. Surfant lui aussi sur le mouvement MeToo, le récit met en scène la rencontre d'une jeune femme et d'un homme qui tourne au vinaigre. Face au succès phénoménal, son auteur, Kristen Rupenian, inconnue il y a un mois, s'est vu offrir un contrat d'édition à 7 chiffres, Noël avant Noël.
Miranda Priestley is the editor-in-chief of Runway. You work a year for her and you can get a job at any magazine you want.
Le diable est de retour et il s'habille toujours en Prada. Lauren Weisberger, auteure du roman culte sorti en 2003 et adapté au ciné avec la redoutable Meryl Streep, vient d'annoncer qu'elle allait donner une suite à son classique. Titré When Life Gives You Lululemons, le nouvel opus se concentrera sur l'assistante de Miranda Priestley, reconvertie en conseillère en images à Hollywood, sortie prévue cet été. Fraîcheur. Broadway, comme si vous y étiez ce soir pour célébrer les fêtes. L'Orchestre Philharmonique de Radio France va faire briller les lumières de la ville dans la maison de la radio. Diffusé en direct vidéo, le concert Noël à Broadway mettra à l'honneur la magie des comédies musicales et la féerie des contes célèbres, notamment Peter Pan par Leonard Bernstein, Le Petit Chaperon Rouge vu par Stephen Sondheim ou Cinderella de Richard Rodgers. Oh, 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 oh. Anne Scott, invitée de Boomerang ce matin pour Cortex, ce livre qui va vous faire frissonner pendant les fêtes de fin d'année. C'est votre 7e roman, Anne, le premier s'appelait Asphyxie. Et puis il y a eu Superstar, évidemment. Comment vous êtes devenue écrivain? Vous qui avez eu plein de vies avant d'écrire. Qu'est-ce qui s'est passé?
J'étais assise dans un jardin à Londres un été et j'ai entendu Nina Simone à la radio. Je ne sais plus ce que c'était comme morceau. Et je me suis rendu compte que ça racontait une histoire, ce qu'elle chantait, j'ai trouvé ça absolument génial. Et le lendemain, je suis allée acheter une cassette d'un best-of, une machine à écrire. Et dans le même mois, j'ai lu, je ne sais plus, 4-5 romans. Et je me suis dit, mais je peux faire exactement ça. Et alors, si je me souviens bien, il y avait Le démon de Selby.
Hubert Selby Junior.
Il y avait un John Fante, je ne sais plus lequel, mais pas un où il est jeune, un où il est vieux. Il y avait un William Burroughs. Et il y avait moins que zéro qui venait de sortir d'Ellis.
De Bret Easton Ellis.
Que j'ai lu directement en anglais. Et il y avait un Bukowski sûrement dans le tas. Et je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire.
Raconter des histoires? C'était ouais, ça que vous vouliez faire.
Raconter des histoires, mais à ce moment-là, je n'avais pas encore compris qu'il faut les inventer. Et pas juste raconter ce qu'on voit. Et donc pendant les 10 premières années, j'ai raconté des choses que j'ai écrit, et c'était jamais publié. Et on me disait c'est prometteur, mais ça va pas parce que c'était pas assez romanesque, c'était trop proche de la réalité. J'avais pas compris. Je croyais qu'il suffisait d'être capable de bien retranscrire ce qu'on voyait, ce qu'on ressentait. Et en fait, non, il faut en plus inventer les trucs.
C'est quoi le travail de l'écrivain pour vous, Anne Scott? C'est d'abord un travail sur la langue?
Non, quoi, la beauté des mots, tout ça?
La beauté d'une phrase, peut-être.
Oh non, c'est quoi ces conneries? Non. La beauté, elle est dans la poésie qui se dégage d'un paragraphe ou dans le rythme, mais elle n'est pas dans le choix des mots, dans le choix des adjectifs. On n'utilise pas de mots qui ne soient pas exactement le mot qui convient. On n'utilise pas des jolis mots, on n'écrit pas pour faire joli, quoi.
Je sais que vous portez sur l'écrivain que vous étiez à vos débuts un regard assez intransigeant. L'auteur de Superstar, elle est où, aujourd'hui?
Je sais pas, elle a 17 ans de moins. La pauvre. Je sais pas.
La elle pauvre
est, bah, pff, on n'est pas très malin. Enfin, 17 ans, ouais, il y a 17 ans, j'étais... ouais, bof.
La résonance de Superstar était quand même très importante, Anne Scott. On ne peut pas, je suppose, s'en départir.
Ouais, mais pas pour moi. Pas pour moi. La cuisine interne n'est jamais aussi... Enfin, c'est une autre histoire que vue de l'extérieur. La cuisine interne de Superstar, c'est quoi? C'est une histoire d'amour... Enfin, une aventure qui se termine avant même d'avoir vraiment commencé, qui est pathétique, qui me fait perdre une bande de copines et qui fait que j'étais chez moi malade, mais malade de rage et de désespoir, et que j'avais envie que l'histoire continue. Et voilà, et quand on écrit sur une rupture, c'est parce qu'on ne l'accepte pas et qu'on a envie qu'elle continue.
Je pense à ces mots à propos de Superstar de Françoise-Marie Santucci que vous avez livré sur les réseaux sociaux à propos de Superstar donc, et qui disent quelque chose de passionnant, je crois. Aujourd'hui, on a grandi, on sait que d'une certaine façon la bataille est perdue, que le mainstream a gagné puisqu'il absorbe la branchitude, qu'il regarde avec fascination le snobisme, qu'il rêve de luxe tapageur. On essaie juste de rester bien droit dans ses bottes rock'n'roll, même si ça aussi ça devient tellement banal. On essaie de regarder le zoo humain avec amusement. On essaie de ne pas perdre ce qui nous fait se tenir debout, le désir, l'envie de continuer à scruter le monde, la beauté de certaines choses et de certains corps.
Oui, mais ça, et en plus, elle a dit ça il y a déjà 10 ans quasiment. C'était 7 ans après Superstar et c'était il y a 10 ans. Moi, je sais pas quoi dire à part que je crois qu'il y a personne. Je n'ai jamais vu personne dans les journalistes de presse écrite à Paris parler aussi bien de l'époque que Françoise Marie Santucci. Jamais. N'importe quelle époque d'ailleurs. Elle a un truc que j'ai pas et que je trouve que personne d'autre a. Donc, si tu nous écoutes, ma belle, merci vraiment pour ces jolies lignes.
Elle dit la beauté de certaines chansons et de certains corps. Qu'est-ce que vous trouvez beau, vous, Anne Scott? Où se trouve pour vous la beauté?
Dans la poésie urbaine. Les choses les plus banales qui soient, la lumière sur une façade d'immeuble, n'importe quoi, un oiseau en train de manger des miettes par terre, n'importe quoi. Dès qu'il y a un moment de grâce, mais il y en a partout, quoi. Même dans le mec qui freine et qui pile et qui gueule en klaxonnant parce qu'il y a quelqu'un qui traverse au mauvais moment et qu'il a failli l'écraser. Il y a toujours le mouvement, en fait. Le mouvement de la ville. J'adore ça. Mais, ou de la campagne.
Si je vous dis « Knocking on Heaven's Door », vous me dites quoi?
Que c'est à pleurer tellement c'est beau, quoi.
D'autant qu'il a à voir ce titre avec l'écriture de votre roman Cortex, du moins sa première partie. Vous êtes sur France Inter avec Anne Scott. Vous écoutez Boomerang. Peut-être bientôt, tout bientôt en vacances ou pas. En tout cas avec Bob Dylan, vous n'êtes pas loin du paradis. On est vendredi. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Il y a quelque chose d'assez troublant chez elle. Je sais pas comment vous dire. Elle est frêle. Pourtant, on a l'impression que si elle voulait, elle serait capable de renverser un camion sur une aire d'autoroute, de mettre KO un catcheur catégorie poids lourd, de traverser les murs en les faisant voler en éclats d'un simple coup de poing. Visage doux, très fin. Regard bleu gris, étrange tatouage sur le cou. Elle est toute de grise vêtue, justement gris foncé. La si talentueuse romancière Anne Scott, invitée de Boomerang ce matin pour Cortex, ce roman d'une apocalypse où vous racontez, Anne, non sans délice d'ailleurs, ce qui se passe après une explosion lors de la cérémonie des Oscars qui décime une bonne partie des visages de Hollywood. Vous vous concentrez sur 3 personnages qui ont échappé à l'attaque, 3 personnages qui se sentent seuls pour diverses raisons. Et je me pose la question, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la solitude?
On est toujours seul, c'est juste que si on fait pas un... il faut rencontrer des gens régulièrement, faire des bouts de chemin avec eux. Et là, ces 3 personnages qui sont tous en train de se remettre en question, ils sont tous seuls au moment où ça commence, ils sont tous orphelins et ils vont être orphelins à cause du cinéma aussi, parce que leur travail est lié à ça, à tous les 3. La solitude, je sais pas, quand vous allez dans un supermarché et que vous regardez les gens qui font les courses pour une personne, quoi, c'est ça, non?
C'est un état que vous subissez, vous, un état que vous recherchez, au contraire, un état auquel vous cherchez à remédier?
Je pense que c'est difficile d'être écrivain et d'avoir une vie amoureuse. Parce que ça rend malade, je trouve, de créer, et qu'on rend malade au passage l'entourage avec ça. L'entourage très très proche, quand on vit avec quelqu'un, on rend les gens fous, je crois.
C'est sombre, hein, quand même.
Non, parce que c'est sombre pour les autres, mais pas pour soi, parce que quand on est en train d'écrire, on est comme un chef d'orchestre, on joue tous les instruments à la fois, c'est le pied absolu, quoi. Et le fait d'aller se coucher à 7h du matin et de manger des pâtes froides au petit déjeuner avant d'aller se coucher pour se réveiller à 3h de l'après-midi, ça pose aucun problème, parce qu'on est le roi du monde, on vient d'écrire un passage qu'on trouve génial, on n'est pas sûr qu'il sera bon quand on se réveillera et qu'on le relira, mais c'est génial. En revanche, pour la personne qui vit complètement décalée à côté, c'est un cauchemar.
On n'en souffre jamais de cette solitude en tant qu'écrivain ?
Mais le problème de l'écrivain, surtout, c'est qu'il n'est jamais aimé pour ce pour quoi il voudrait. Bon, c'est un boulot d'artisan comme un cordonnier, mais c'est presque plus un truc de sculpteur. Vous vous cassez. Parfois, vous allez donner un mauvais coup et vous allez casser complètement le marbre. Parfois, vous faites attention, ça se passe bien. Et voilà, c'est un truc de besogneux.
Alors, le grand paradoxe, je trouve, dites-moi ce que vous en pensez, c'est que le livre, pour autant, c'est le support d'une expérience collective. C'est-à-dire qu'une communauté va le lire. C'est-à-dire que la solitude de l'écrivain, elle se confronte au collectif de lecteurs.
Oui, mais c'est une fois que... Enfin, cette phrase, ce que je vais dire, tout le monde l'a dit 2000 fois, mais une fois que c'est publié, c'est, ça n'a plus rien à voir avec vous, parce que déjà, physiquement, les personnages, ils vont vous apparaître autrement qu'ils apparaissent à l'auteur. Ça n'a rien à voir. Même si je vous dis, elle est blonde, elle a les yeux bleus, elle est habillée comme ci ou comme ça, vous verrez autre chose. Rien que le prénom d'un personnage, ça va vous rappeler quelqu'un que vous avez connu qui portait le même nom.
C'est facile à vivre, ça.
De quoi ?
Le fait qu'un livre ne vous appartient plus, une fois qu'il est publié, imprimé.
Oui, parce que vous le couvez tellement longtemps qu'une fois que vous en accouchez, ça va, quoi. Vous êtes repu du truc, vous n'avez plus besoin de le garder pour vous. Vous passez à autre chose, en fait. Une fois qu'on commence à parler d'un livre, on a déjà oublié ce qu'il y avait dedans. Moi, je ne l'ai pas relu encore pour l'instant.
Si vous voulez bien, je vais lire un extrait de Cortex.
C'est avec plaisir.
La vie nous en demande beaucoup sans nous en donner assez. Tout doit venir de nous-mêmes. La motivation, la persévérance, l'endurance. Et même quand on partage le résultat avec quelqu'un, on reste seul en dedans. Il n'y a jamais vraiment d'expérience collective. Même ce qui vient de se passer n'en est pas réellement une. Les autres ont beau avoir l'air de ressentir la même peine et l'exprimer avec les mêmes mots, on ne saura jamais vraiment à quoi ça correspond pour eux. Il y a les instants collectifs au quotidien, mais rien qui bouleverse totalement, qui transcende pour de bon. Ça va pas assez loin pour moi. J'ai besoin de plus que ça. Qu'est-ce que ça voudrait dire, Anne Scott, pour votre personnage, aller plus loin? Plus que ça?
Je sais pas, rencontrer Dieu. Un truc comme ça, j'imagine. Enfin, là, c'est ça l'expérience ultime, non? C'est tout d'un coup, vous êtes en train de marcher dans la rue. Vous imaginez? Vous êtes sur une plage, vous voyez un truc sortir, un truc lumineux sortir de l'eau. Non, le truc où je voudrais que ça aille plus loin, non, je me moque de vous parce que j'ose pas dire la vérité, mais la vérité, c'est que j'aimerais bien voir une soucoupe volante.
Vous y croyez, vous?
Écoutez, je vais paraphraser Jodie Foster dans Contact qui dit que si on est seul dans l'univers, c'est un beau gâchis d'espace.
De quel secours sont les livres et les films, vous citez Contact, l'art en général, pour ceux qui ont besoin de plus?
Si vous êtes bon public, c'est génial, ça marche et ça fonctionne le temps que ça fonctionne. Les livres ne me nourrissent pas du tout de la même manière. Je vous dis, je lis pour apprendre à mieux écrire. Donc je lis peu de gens, que je relis en boucle. C'est pas du divertissement, les films, ouais. Même dans un mauvais film, je pourrais toujours, à un moment ou à un autre, il y aura une scène, un plan, une lumière, un cadre, un truc qui fera qu'il y aura 2 secondes à sauver, mais ce sera toujours ça.
Come over here, kid, learn something. You never know, you might have to cook for 20 guys someday. You see, you start out with a little bit of oil, and you fry some garlic. Then you throw in some tomatoes, some tomato paste, you fry it, you make sure it doesn't stick. Got it to a boil, you shove in all your sausage and your meatballs, huh? And a little bit of wine. And a little bit of sugar. And that's my trick.
Why don't you cut the crap? I got more important things for you to do. How's Paulie?
Oh, Paulie won't see him no more.
Et comme à tous mes invités, Anne Scott, je vous ai demandé de terminer cette émission comme vous le souhaitiez et vous avez choisi un extrait du Parrain de Francis Ford Coppola. Pourquoi cet extrait précisément? Est-ce que vous pouvez nous le décrire peut-être?
Parce que justement, quand on travaille, qu'on est tout seul chez soi à écrire et qu'une fois qu'on termine, qu'il soit 8h du soir ou 5h du matin, le truc qui manque le plus, c'est de c'est la fraternité, quoi. J'ai fait mon travail, félicitez-moi, prenez-moi dans vos bras, racontez-moi un truc, qu'est-ce que vous avez fait de votre journée, etc. Et quand je fais les pâtes à 7h du matin et que je fais la sauce de Clémenza dans le Parrain, je crois qu'il y a un vieux fantasme d'avoir une famille nombreuse et ça me calme beaucoup plus que si je sortais prendre un petit déjeuner vegan dans le quartier avec des graines qui me nourriraient pas du tout. Mais de la même manière que je peux passer 2 heures à essayer de refaire la recette de hamburger de Hemingway parce que je trouve ça vachement plus excitant que les trucs vegan.
C'est rechercher aussi une fraternité artistique, là, en l'occurrence, puisque vous citez Hemingway.
Oui, parce que ça a disparu et que c'était un monde de bons vivants. Moi, les copains que j'ai qui mangent végétariens, je les vois jamais affalés en disant « j'ai trop bouffé, j'en peux plus ». Tout est vachement léger, tout va bien, ils peuvent fonctionner. Après, moi, j'aime bien le principe de manger une plâtrée de pâtes avec des pâtes italiennes fantastiques et après d'être épuisé, de faire une sieste, quoi.
C'est intéressant aussi, Anne Scott, que vous choisissiez de nous parler d'une scène avec Al Pacino qui est présente dans votre livre. Un monde dans lequel il n'y aurait plus Al Pacino, ça ressemblerait à quoi ?
Oh non. Oh non.
C'est non ?
Oui, mais non, mais en même temps, c'est compliqué parce que dans la réalité, ces acteurs, il y en a qui sont vieux, il y en a qui sont plus très bons dans leur dernier film, il y en a qui sont chiants, qui ont des points de vue insupportables. On n'a pas envie d'être copain avec eux quand ils entendent parler de certaines choses. Mais ce qu'on aime, c'est tous ces personnages, quoi. Et Pacino, non, j'ai pas envie, je veux même pas imaginer, non.
De quoi sont-ils l'incarnation pour vous, ces comédiens que vous citez hein, dans Cortex, dans nos sociétés modernes ?
Je sais pas, mais en tout cas, je crois que la raison pour laquelle le cinéma m'obsède à ce point, c'est que dans un film, en général, le personnage part d'un point A pour aller à un point B et il change en cours de route. Dans la vie, les gens mettent 40 ans parfois à changer. Dans un film, on change en 1h40. On dit toujours pour qu'une histoire soit bonne, il faut que le personnage soit pas le même à la fin qu'au début. Et ça, ça manque dans la vie. C'est-à-dire d'avoir une conversation avec quelqu'un, on s'engueule pour un truc et on n'est pas différent après la dispute. Et donc le cinéma me fait rêver à un monde meilleur, je crois, comme tout le monde, bêtement.
En particulier les acteurs que vous citez ?
Les acteurs du cinéma 70 américains, ils étaient chouettes, oui.
Mais c'est ça, c'est parce que les adolescents, aujourd'hui, leurs idoles ne sont plus Al Pacino et Meryl Streep, Anne Scott.
Non, il y a une nouvelle génération, mais leurs idoles, c'est des acteurs de série, et puis ils sont jeunes, et puis ils n'ont pas des scénarios à la Voyage au bout de l'enfer, ou je sais pas quoi, donc c'est... Mais bon, on est des vieux cons, donc on a des goûts de vieux cons, enfin je parle pour moi.
Non, j'ai pris pour moi aussi.
Non, mais non.
Le monde de demain, vous l'imaginez comment ?
Comme ce qu'a dit DiCaprio un jour, le fait qu'il pourrait y avoir une extinction de masse pour qu'on nettoie un peu tout ça et qu'on reparte à zéro. Je pense qu'on va avoir aucune chance, quoi. Que le climat, je crois que c'est dans 20 ans que le Bangladesh sera à moitié sous l'eau. Enfin, ça va être, je sais pas, je pense que tout ce qui nous reste, c'est la poésie. Mais vraiment la poésie de chaque instant, quoi. De tout. De même, regarder la bouteille d'eau là, que j'ai dans la main, avec les gouttes à la surface, même ça devient poétique au final, je trouve.
Merci infiniment, Anne Scott.
Merci, Augustin.
T'es venu faire un tour dans Boomerang Cortex chez Stock. Comme vous l'avez peut-être compris, on n'en pense que du bien. Merci à vous et à tous les joyeux lutins de Boomerang, Lola Costantini, Valentine Chedebois, Léonard Biot, Pierre Martinerie et Margot Criou. Joyeux Noël avec un peu d'avance, gare aux crises de foie et aux excès en tout genre. On se retrouve en 2018, mais pas avant d'avoir fait teinter les gros lots de Sonia De Villars et de son Instant M, juste après ça.
Givré, innocent, tout figé, c'est l'hiver, en été. Tout est blanc, défoncé, aveuglant, déchiré. C'est l'hiver, en été. La... étouffer, faux semblant, allongé. C'est l'hiver, en été.
Les flocons de l'été, Étienne Dao sur France Inter. Merci toute cette semaine aux techniciens de Radio France. Merci aussi à Elvire Copey qui était notre stagiaire de Boomerang cette semaine. Elle a vu La Folie. Je voudrais dire pardon à sa maman Sophie. C'est l'heure de l'instant M. Sonia De Villers.
Ah non, comment on commence à demander pardon aux mamans? Là, c'est vraiment la fin des haricots.
On en est là. C'est avant Noël.
Salut Augustin. Bon
Bonne
week-end.
Vacances. Bye bye. Ciao.